Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau setup pour nous. C'est Hollywood, regardez, il y a une caméra, il y a un micro pour moi. Enfin, j'ai les mains libres. En général, j'ai un micro sur la main. Et c'est parce qu'on reçoit aujourd'hui Alban Lenoir. Salut Alban.
Bonjour.
Pour parler, en fait, de ta carrière et surtout du film Aka qui sort, en fait, là, aujourd'hui, pour nous, hein, le 28 avril sur Netflix. Et en fait, on est super content de te recevoir parce qu'on aimerait vraiment parler de ta carrière de cinéma d'action. D'accord. De héros d'action même, j'ai envie de dire, parce que t'es un des rares acteurs finalement à faire ça en France aujourd'hui. Voilà.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant.
Il y en a plein qui vont arriver, mais...
Il y en a plein qui vont arriver, ah oui. Ah, t'as des scoops.
Non, j'ai pas des scoops, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont arriver.
Écoute, pour commencer, on va parler d'Aka tout à l'heure, mais pour commencer, j'aimerais bien en fait qu'on évoque un petit peu ton enfance, et surtout en fait la façon dont toi, parce que t'es un enfant des années 80, la façon dont tu t'es un peu lancé là-dedans, en fait, dont tu t'es dit, tiens... Quel est le film qui t'a donné envie ou l'acteur qui t'a donné envie en fait de te dire tiens je vais peut-être faire de la cascade du cinéma d'action
Bah ça c'est très simple, c'est plus trop un secret, c'est vraiment j'ai vu Bootsport à 9 ans et j'ai dit bah je veux être lui quoi. Donc ça m'a fait me lancer dans les arts martiaux où j'ai pratiqué pendant 10 ans tout type d'arts martiaux. Cette envie de vouloir devenir acteur et de me dire si ce Belge en soi y est arrivé, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Donc m'a insufflé en tout cas cette confiance et ce but de devenir acteur. Et je trouve toujours ça incroyable, 30 ans plus tard, d'y être arrivé.
Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui représentait pour toi Van Damme à ce moment-là ? Au-delà de la réussite, en
oui,
fait,
bah c'était sur l'écran, quoi. Non, bah c'était sans tomber dans une identification. J'avais pas trop de repères paternels enfant, et c'est vrai qu'en voyant ce mec-là, donc j'avais, enfin si vraiment je dois développer, t'as aucune éducation venant d'un homme, donc tout ce qui est, je sais pas comment le dire, se défendre, l'aspect viril, comment se comporter. Avec les autres, les hommes, les femmes, ainsi de suite. Et c'est vrai que de découvrir ce gars-là qui était un peu qui allait devenir en tout cas une icône, j'ai pas le terme pour transcender, mais vraiment j'ai voulu faire une identification. J'ai dit je serai ce gars-là.
Ça t'a donné des repères en fait.
Oui, ça m'a donné des repères de savoir où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire, à quoi je voulais ressembler, qu'est-ce que je voulais dégager. Donc ça m'a assez vite passé dans les années qui ont suivi où il y a mon spectre artistique qui s'est vraiment beaucoup plus ouvert avec Jim Carrey, enfin avec plein d'autres acteurs et de genres différents. Mais ce déclic-là. Qui m'a fait me mettre aux arts martiaux a fait toute la différence, car j'aurais jamais décroché le rôle d'un Français ou d'anti-gang sans mon passif martial. C'est vraiment ce qui a fait la différence pour qu'on
choisisse. Ça, c'est intéressant, on va en parler tout à l'heure.
Donc, du coup, tu vois, il y a toujours ce truc où j'ai remarqué que tout est lié. Tout ce que j'ai raté avait un sens, tout ce que j'ai voulu faire avait un sens, tout est, voilà, même si ça paye 20 ans après, bah, ça a été cette petite graine qui a fait que j'en suis là aujourd'hui.
D'accord, ok. Et du coup, en fait, par rapport à l'idée de devenir acteur, quel était ton parcours par rapport à ça ? C'est-à-dire, pour toi, on sait que tu as fait beaucoup, beaucoup de petits rôles. T'es à l'origine, par exemple, des Recorp, en fait, aussi à l'idée. Mais en fait, comment toi, en fait, est-ce que tu as travaillé ? Est-ce que tu as fait des cours ? En fait, ça t'a pris des cours ?
Le plus dur, c'est déjà de connaître personne. Mais personne, de venir de Dijon. Et ça a été à 17 ans, ma mère qui me fait. Après. Un multiple établissement qui avait choisi de me renvoyer, pour faire simple, qui m'a dit, écoute, t'as gagné, vas-y, pars à Paris. Donc là, bah, tu pars sac à dos, avec quelques... Enfin, elle est vraiment la petite histoire, quoi. Les petits billets en poche, la maman qui t'aide comme elle peut. J'ai intégré les cours Florent quelques mois, mais c'était vraiment pas pour moi. Et puis, ça coûtait une fortune et j'avais pas les moyens, donc je suis pas trop resté. C'était vraiment... déjà, comment arriver sur un plateau de cinéma ? Donc là, tu dis, bon, bah, le plus simple, figuration. Donc là, pour le coup, je traînais en vélo dans les rues de Paris. Et dès que je voyais un tournage ou un camion, bah, je m'arrêtais, je demandais s'il y avait un chef de file. Et c'est comme ça que de 18 à 25 ans, j'ai fait 300 cachets de figuration.
D'accord.
Mais vraiment, pas style 300, j'ai fait 300 jours, je pense, de figuration. Donc,
il y a des gros films où on peut te repérer là, comme ça.
Ah ouais, il y en a plein. Mais non, puis du coup, après, j'ai plein d'anecdotes qui se sont déclenchées suite à des participations à des films. Mais ce qui m'a surtout appris. Donc, il y a eu ce discours-là déjà que j'ai vécu pendant 5 ans, un figurant ne deviendra jamais acteur. Mmh. Bon, déjà, ça, je ne le comprenais pas, mais c'est vrai que tu arrives dans une routine où tu es vraiment connu, enfin, dans ce petit truc de figuration, et tu dis, mais comment je vais arriver à me sortir de ça ? Et il s'avère que petit à petit, ben, déjà, tu connais un plateau comme personne, parce que tu as fait 300 jours sur un plateau, et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait 300 jours sur un plateau, où tu as pu voir 10 000 choses se passer pour anticiper. Beaucoup de soucis qui se passent quotidiennement sur un plateau. Et petit à petit, ben, gratter une petite réplique, une autre, et la chance que Alexandre Astier me voit sur scène avec son frère Simon et me propose 10 épisodes de Kaamelott, et qui pour moi était mon premier pas, en tout cas, du petit figurant qui devient comédien.
Et du coup, il y a aussi en fait, un passage vers la cascade. Alors, quelles sont les rencontres à ce moment-là, en fait ? Alors, comment ça se passe pour toi, en fait ?
La cascade, c'est un peu une légende urbaine, le cascadeur devenu acteur. Ouais. Et c'est vrai que je vois que c'est beaucoup traité. C'est juste que du fait de mon passif martial, un jour, j'avais décroché un petit rôle dans la série Léa Parker,
ouais.
Où on voulait me doubler. Et je me suis dit, écoutez, franchement, je pense que je peux le faire. Et du coup, ça s'était très bien passé. Et du coup, le régleur cascade m'avait rappelé une ou deux fois, mais pour vraiment faire des petits trucs, parce que je me suis vraiment jamais considéré comme un cascadeur, dans le sens où je me suis jamais donné les moyens. J'ai pas fait une défenestration à 10 mètres de 10 étages, me faire cartonner par une voiture, enfin, je suis chaud pour le tenter, mais je veux dire, en tout cas, voilà, les acrobaties et autres, et je suis plus un comédien physique ou un bon médium, comme ils peuvent appeler ça dans le milieu de la cascade, que un pur cascadeur qui est apte à faire beaucoup de choses. Même si j'essaye de tout faire moi-même sur les films.
Sur les films d'action que tu fais, ouais. Quelles sont les rencontres importantes pour toi ? Parce qu'il y a vraiment une bascule au début des années 2010, on va dire. Donc, pour devenir vraiment, en fait, pour commencer à avoir des vrais second rôles.
Ben, la vraie rencontre, de toute façon, c'est Simon Astier. Mm-hmm. Ça, la question se pose pas, que j'ai rencontré à Dijon. Quand on avait, je sais pas, on a 3 ans de différence, je vais avoir 15 ans, lui il avait 12 ans, et on se croisait un peu au collège, et on s'est retombé dessus par hasard à Paris, sur les Champs-Élysées. Moi je vais avoir 20 ans et lui 17, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas, j'étais acteur. Il me fait, bah écoute, moi aussi. Je suis, bah mec, vas-y, lançons la machine. Et du coup, on a écrit un spectacle, on a créé Aérocorp. Ça a été vraiment le début de tout, ce binôme avec Simon, qui a lancé un peu la machine, quoi, qui a déclenché Off Prime, aussi une série Virginie Efira.
D'accord. Mais du coup, après, en fait, par rapport aussi à comment ça se passe quand tu reçois, je veux dire, des scénarios où d'un seul coup, tu te retrouves sur la Lazy Company, par exemple, c'est un second rôle, mais c'est un second rôle déjà comique aussi. Ensuite, il y a quand même, t'en as parlé tout à l'heure, il y a un Français et Antigang, c'est vraiment l'année 2015, en fait, où il y avait quand même Goal of the Dead avec Benjamin Rocher avant.
Oui, carrément. Bah, Goal of the Dead, ça a été vraiment mon premier rôle, on va dire, où je portais, même si c'était un film choral, un film. Un Français, quelques mois après, a lancé ma carrière, en tout cas dans la profession. C'est-à-dire que la profession, du jour au lendemain, aussi, en partie à cause de la polémique, connaissait mon nom. Et de pouvoir enchaîner quelques mois après Antigang a été formidable pour montrer aussi des palettes différentes de jeux, pour ne pas se faire enfermer dans un genre. Et Lazy Company, enfin, quand je te dis que tout était lié, tu vois, en début d'interview, c'est pas de Aérocorp, pas de Lazy Company, pas de Samuel Baudin, pas de Benjamin Rocher, où c'était la même prod qui me rencontre, qui me propose Goal of the Dead, pas de Goal of the Dead, pas d'un Français, parce que du coup, je suis personne, mais c'est Canal qui produit les deux, et Canal se souvient de moi, de Goal of the Dead, il fait, bon, allez, ok, on mise sur lui pour un Français. Enfin, c'est dingue comme... chaque échec te rapproche du succès. Je fais une digression, mais vraiment mon parcours, tu vois, je suis quand même monté à 17 ans à Paris avec mon sac à dos, et j'ai décroché mon premier rôle à 33, mon vrai premier rôle.
Ouais. Et du coup, alors, pour toi, en fait, quand tu te retrouves là-dedans, avec par exemple un film comme Un Français, qui a été tourné avant, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, Antigang, En fait, quand tu dois porter un film entier comme ça, qui est en plus tourné souvent en plan séquence, en fait, quelle est ton expérience là-dessus pour te permettre de porter ça? Parce qu'en plus, le rôle est compliqué. C'est pas facile, en fait, de rendre un personnage comme ça empathique, qu'on soit quand même avec lui tout le temps. C'est assez désagréable, hein, même comme milieu. Hein, faut être clair et net, quoi. Donc, en fait, comment toi, en fait, déjà, comment tu le prends, toi, en fait, quand on te propose le rôle, quand on te dit, OK, on peut miser sur toi?
Bah, alors, déjà, on me propose rien du tout.
D'accord.
Je reçois le scénario et je me dis, bon, je l'aurai jamais. Mais si je l'ai, je crois qu'il y a moyen de lancer un truc, quoi. Et il s'avère que je décroche ce rôle-là. Non, après, sur le sujet, moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'était... la question ne se posait pas si je devais pas faire le film par rapport au sujet. Ce qui était déterminant pour moi, c'est d'être à l'opposé de ce rôle. C'est ça qui faisait ma légitimité pour jouer ce rôle et d'être justement l'opposé de tout ce qu'est ce rôle... un facho pour faire simple, mais il y avait non, il y a cette piquanté sous la direction d'un réalisateur comme Diastème qui est déjà à l'écoute, où moi j'avais un peu la hantise des postiches, des trucs comme ça, où je trouve que c'est pas notre point fort en France, et alors que t'as rien fait et que tu proposes est-ce qu'on ferait pas le film à l'envers, comme ça je peux prendre un peu de poids, prendre de la barbe, et plus le film passe, et ben déjà je savais que j'allais très peu manger parce que j'avais perdu je crois 14 kilos en 21 jours et je savais que ça allait me tendre et c'est exactement ce qui s'est passé, et vu que plus le début du film je suis agressif, ben plus on finissait plus j'étais tendu, mais
Oui, c'est ta proposition, ça, de tourner à l'envers.
Bah, en fait, il l'avait en tête et il m'a dit, j'osais pas te le proposer. Et c'est vrai que c'était très spécial pour moi que mon premier plan, premier jour, c'est le dernier plan du film où je suis devant un petit écran vert en train de couper des légumes. Et donc là, t'as ta fille qui est dans la manif pour tous. Et là, tu dis, OK, je suis en train de planter le film. OK, je suis en train de tuer. Je ne sais pas ce que. Et au bout du compte, bah, tout se lie et tout marche plutôt pas mal. Mais c'est autant une chance. D'avoir décroché un Français en premier rôle, que j'ai pas dire une malédiction, mais je savais que ça allait être probablement le plus beau rôle de ma vie. Et c'était mon premier rôle. Donc c'est toujours un peu délicat, tu vois, de se dire, donc ton premier rôle sera ton plus beau rôle et après. Et je suis un peu à la recherche justement de ce type de rôle qui m'a tellement apporté. Enfin, moi, je démords pas, après, c'est mon point de vue, mais qu'un prix, tu le donnes pas à un acteur, tu le donnes à un rôle. Alors évidemment, oui, il faut quelqu'un de talentueux derrière, mais ça, j'en démordrai jamais que c'est le rôle qui fait la différence.
D'accord.
Et que t'aurais mis quelqu'un d'autre pour faire un Français que moi, le film aurait été tout aussi bien et le rôle tout aussi fort.
D'accord. Mais pour toi, c'est par contre, c'est parce que là, on va rentrer dans la phase action en fait de ta carrière, quoi. C'est quand même hyper important en fait de pouvoir, avoir les deux, quoi. De pas être, tu sais, aux États-Unis, on dit typecast, quoi. Tu vois, on dit voilà, ah oui, mais lui, c'est un gros musclé, donc. Voilà, en fait, il fait des films d'action, on peut pas le mettre ailleurs, mais mine de rien, le fait de faire un Français, c'est aussi une bénédiction dans le sens où ça te permet de montrer que t'es capable de faire les deux.
Oui, bien sûr, un Français m'a amené Le Summer, m'a amené Gueule d'Ange, des films que jamais j'aurais fait et qu'on m'aurait jamais proposé sans avoir tourné un Français. Donc c'est moi, c'est sûr, dans la même année, faire Les Crevettes Pailletées, Gueule d'Ange et Balles Perdues. Que demander de plus, et j'espère juste que ça va pas s'arrêter.
Alors j'aimerais bien qu'on parle, et on va en arriver à AK quand même, s'il faut qu'on en parle, quoi. J'aimerais bien qu'on arrive en fait à l'idée de, voilà, maintenant d'un seul coup, tu te retrouves avec Antigang et Balles Perdues et tous ces films-là, en fait, à être un héros d'action, c'est-à-dire un truc qui existe en France, mais de manière un peu disparate. À chaque fois, on a déjà une ombre énorme avec Bébel. Donc, ce qui est bon, à chaque fois, on dit c'est le nouveau Bébel, donc c'est un peu, voilà, ça se pose là. Pas mal d'acteurs n'ont pas forcément, à mon sens, en fait, tenu l'idée de continuer à faire ça, parce que Bébel l'a fait pendant une bonne quinzaine d'années, hein. Voilà, quand t'as un Samuel Le Bihan qui fait un petit peu de film d'action, bah d'un seul coup il va faire des comédies, vraiment autre chose, mais toi t'y reviens régulièrement. Donc est-ce que t'as en fait est-ce que c'est inconscient, est-ce qu'il y a quelque chose en tête en toi où tu te dis mais je veux créer un type de cinéma d'action de cet ordre-là qui n'existe pas forcément en France?
Ce qui est sûr, c'est que c'est dans mon ADN, quoi. Enfin, comme tu disais, par rapport à ma période de films adolescents, c'était la période Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, Steven Seagal, Schwarzenegger, Stallone. C'était vraiment... j'ai bouffé cinéma là sans fin. Et donc oui, il y a cette envie, il y a ce truc de... Il y avait de toute façon cette idée avec Balles Perdues de... d'espérer à notre petite échelle ce qu'on avait tenté sur Antigang, mais qui avait été un peu loupé par ce manque, ce petit manque d'entrée au cinéma, ce qui nous avait pas permis de faire une suite, en tout cas à cette époque-là, de relancer le genre en France, de redonner ce, tout est une question de confiance. Moi, je reste vraiment un public avant tout un spectateur, et je pense que tout est une question de confiance quand. Quand Olivier Marchal nous sort 36 Quai des Orfèvres et qu'on n'avait pas vu un bon polar depuis 15 ans en France, en fait, bah voilà, on peut le faire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après? Bah, il y a 100 polars qui sortent dans les 10 années après, puis il y en a 95 qui sont pourris.
Oui.
Donc tu repères la. Donc c'est sans fin, mais c'est voilà d'insuffler cette confiance au spectateur que je suis. Et merci Netflix pour ça, parce que sans Netflix, Le Perdu et Akane n'existeraient pas.
Mais alors du coup, justement, alors on parle de Netflix, il y a l'idée en fait quand Balle Perdue sort, c'est que d'un seul coup, pour le coup, tu parlais de manque d'entrée sur Antigang, parce que bon, alors, ça reste un marché français, peut-être un tout petit peu international, mais vraiment Europe, tout ça, etc. etc. La Balle Perdue, c'est le même jour partout.
Ouais.
Voilà, c'est un succès assez rapide. En plus, c'était à l'époque, c'était sorti pendant le confinement.
Un mois après.
Voilà, un mois après.
Quand c'est pendant le confinement. Ah ouais.
Ça aurait fait encore plus de vues. Ouais, ouais. Qui sait, quoi. Mais remarque, le 2 a très bien marché.
Oui,
aussi,
tout à fait.
Donc voilà, on n'y était plus, quoi. Ouais. Mais la vraie question, c'est du coup, pour toi, en fait, alors en France, t'es installé là-dessus. Ça devient, entre guillemets, ton terrain, on va dire. Mais en fait, à l'international, forcément, les joueurs, on le voit aussi, quoi.
Ouais.
C'est un film qui est hyper. Moi, je vois sur Twitter, par exemple, quand les gens parlent, il y a ce qu'on appelle le action Twitter. En fait, ils parlent beaucoup. Enfin, je me rappelle que Balle Perdue 2 était hyper attendu.
Ouais.
En gros, quand
c'était assez impressionnant. Ouais.
Voilà. Et du coup, en fait, comment toi, tu perçois la façon, en fait, dont ces films-là et ce type d'action-là, en fait, est pris à l'étranger, quoi.
Ah bah il est pris, enfin les retours en tout cas américains sont incroyables dès le premier. Il y avait vraiment le truc qui ressortait le plus, c'était que ça fait du bien de voir un film d'action sans effets spéciaux numériques, de voir un acteur pas stéroïdé, ouais. Enfin, chargé comme un porc, qui a mal quand il se prend des coups. Et je pense que ça a été ça la petite différence de ce trop plein de films américains, de trop de VFX, de trop de tout, quoi. Et de revenir un peu à la base, et un peu old school, à refaire revivre un peu l'amour du cinéma d'action, quoi. Comme il se faisait avant.
Je suis un peu étonné qu'on te propose pas des films américains.
On me les propose.
D'accord. Quel genre, par exemple, ça pourrait être. Ah, tu veux pas en parler?
Si, c'est après, c'était plus. Il y a autant une question de disponibilité là où ça collait pas, mais ça peut aller de très grosses franchises américaines où il y a des voitures que d'autres petits films un peu plus intimistes. Et c'est vrai que comme tu disais, le fait de sortir dans 193 pays et de vraiment bien marché dans les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, font qu'il y a des réalisateurs qui voient ton film et qui se disent tiens, mais il serait bien dans le mien, et qui t'appellent. Et ça fait toujours un peu bizarre, parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Et c'est vrai qu'autant il y a 20 ans, c'était mon rêve, mais à la manière, voilà, Van Damme, donc je veux être lui, donc ça veut dire partir aux États-Unis, devenir une star et tout ça. Plus les années ont passé, qui n'a fait que s'amoindrir, en me disant mais c'est pas du tout ce que tu veux, c'est de toute façon t'es pas la même personne à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, et encore moins à 40. Et là moi j'ai qu'une envie, c'est de faire des bons films, quel que soit le genre d'ailleurs. Et je vois, je n'ai plus ce désir, mais vraiment plus du tout, de partir des mois pour tourner dans un film américain,
une carrière américaine.
Je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais pour l'instant je suis bien ici, puis essayons déjà de faire les choses bien en France.
Et surtout il y a en fait, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais tu vas me confirmer ou pas, qu'il y a aussi l'envie en fait de contrôler un tout petit peu quelque chose, un peu plus peut-être. Alors aux États-Unis c'est un peu compliqué, et je pense notamment, justement, on en vient à Aka, à l'idée en fait que c'est un projet que tu portes depuis quelques années et qui arrive à se monter, j'imagine, grâce au succès de Balle Perdue.
Tout à fait.
Mais pour le coup, en fait, autant par exemple Balle Perdue, c'était autant le film de Guillaume que Guillaume Pirret que le tien, autant là peut-être, même si c'est Morgane évidemment qui réalise, Morgane Dalibert, le chef-op de Balle Perdue, il y a quand même l'idée, en fait, si tu veux, que tu portes ce perso, tu portes cette histoire depuis un moment.
Oui, mais c'est vraiment pas comparable. C'est vraiment Guillaume Pirret pour Balle Perdue, il m'amène ce scénario où il y avait un peu de travail à faire, et il a cette intelligence. Enfin, il veut tellement qu'on ne fasse qu'un pour le film qui m'implique dans l'écriture. Et c'est la meilleure chose. Enfin, c'était vraiment, tu vois, ce truc de ne penser comme moi, rien au-dessus du film, et de me dire, tiens, viens, vas-y, on améliore tout ça ensemble, on upgrade les scènes, on parle de ton personnage, et qui a fait qu'on était en symbiose complète pour tourner Balles perdues 1, et c'était un bonheur. C'est vrai qu'après, Aka, ça date de l'époque, bah, déjà où je suis personne. C'est-à-dire, quand on commençait à l'écrire, j'ai même pas tourné Kaamelott, on n'a même pas fait Aerocorp. J'ai même pas fait Aerocorp. Je connais Morgan depuis quelques années. On se bouffe les films coréens, les Bittersweet Life, les House of the Devil. On sort de la trilogie Jason Bourne.
C'est pas 7 ans, en fait, ça date de vraiment.
Non, bah oui, bah, genre, ça, là, je crois que le troisième Jason Bourne, il a dû finir en 2007. Et nous, on a fait le pilote de Aka totalement indépendant, enfin, en indépendant, qu'on a tourné d'ailleurs à Dijon, pour. Où je me suis écrit le rôle qu'on me donnera jamais et qui n'existait pas en France, quoi. On va écrivons ce, je sais pas, un truc de, un mix de Jason Bourne, de Man on Fire, de The Shield pour la France. Donc au début, on part sur une série.
D'accord.
Qu'on essaie de développer, qui commence à intéresser quand même pas mal de boîtes de prod, voire de diffuseurs. Il s'avère qu'on se casse les dents et qu'on n'arrive jamais à monter cette série et qu'on décide à un moment donné de le traiter en long métrage. Et s'ensuit 10 ans de oui, de non, de sortie cinéma, de pas de sortie, de on va le tourner, puis en fait vous le tournez pas, et jusqu'au jour où Netflix dire ben nous on va le faire. Et du coup, ben, pour une fois, ça va au bout.
D'accord. Et qu'est-ce qui était important pour toi? En fait, l'idée d'écrire un personnage pour toi, en fait, c'est-à-dire en tant que héros d'action déjà à l'époque.
Ouais.
Parce que il y a aussi un truc en fait où on sent que il y a une volonté peut-être de pousser le film vers plus de drama.
Bien sûr, oui.
Que comment dire, Balles perdues où c'est plus action.
Oui, oui. Bah c'est, enfin, sans parler de film d'action intelligent, mais en tout cas, on a essayé de pousser un peu les curseurs. Comme on pouvait à notre niveau aussi de d'écriture et de moyens pour faire le film, mais c'est vrai qu'autant moi j'ai un amour pour la série B, et par exemple je compare vraiment Balles perdues à une série B, mais de tout sauf péjorativement,
ouais.
C'est bon, mais et que Aka, même si c'est dans le même ADN, ça reste pas des films comparables, c'est une autre vision aussi de l'action, c'est l'action va être un peu plus au service du récit. Ce qui va l'être peut-être un peu moins dans Balles perdues, qui a un côté un peu plus de divertissement. Mais oui, la base de cette écriture, c'est créer un personnage que moi, j'aurais envie de voir à l'écran, qu'on ne m'écrira jamais. Et encore une fois, essayer de se dire, ouais, quand on écrit ça en 2007, on regarde autour de nous et il n'y a rien. Il y a une Hit Gap qui date déjà de quelques années. Il y a eu Go Fast. Je me souviens pas qu'il doit être dans cette période-là, ouais, peut-être un peu en avant, qui sort un peu du lot, mais à part les productions Europa, qui sont 100% françaises, mais en même temps, on a l'impression de voir des films américains, donc il y a ce truc un peu déstabilisant, que ça aille de Danny the Dog à Tekken,
ouais.
Mais qui sont des vraies réussites pour le coup, puis qui font émerger des réalisateurs comme Lulu Terrier et Pierre Morel. Donc il y a. Voilà, essayer de fédérer tous ces. Toutes ces personnes dont on est,
ouais.
qui ont l'amour de ces films d'action, quoi.
Mais sauf que justement, alors le truc c'est que j'aimerais revenir vraiment à l'idée de ce perso, en fait, qui est quand même un perso un peu noir, un peu sombre. Bon, il y a son passé, ça on va pas forcément en parler dans le. C'est mieux que les gens le découvrent éventuellement, quoi. Même si c'est lié en fait à comment dire. À le côté Man on Fire du film, en fait, c'est-à-dire vraiment le truc.
Mais complètement
assumé, hein,
assumé. C'est marrant parce que souvent on nous fait des références, dire ah, mais ça, vous êtes inspiré de tel ou tel film qui ont 2-3 ans, et tu fais, mec, c'était il y a 15 ans qu'on l'a écrit, quoi. Donc tout ce que tu vois là, les idées de base, la scène dans le bar filmée par les vidéos surveillance, ça date déjà, l'idée était déjà là il y a 15 ans, quoi.
Et ça, c'est marrant parce que du coup, dans l'écriture, et c'est parce que c'est une scène d'action, mais qui est une scène d'action un peu, justement, plus, pas drôle, mais plus, en fait, décalée qu'une scène d'action classique, quoi. En fait, toutes ces idées-là, en fait, vous les écriviez déjà sur le papier.
Ah oui, bien sûr, mais tout est la moindre.
D'accord.
La moindre chose qui est dans le film était scénarisée. Et encore, après le montage, entre ce qu'on écrit, ce qu'on tourne et ce qu'on monte, souvent, on n'a pas 3 films différents, mais quand même. Et donc, cette scène-là, par exemple, n'était pas du tout à cette place-là. Tu vois, nous on voulait un peu justement créer une frustration constante du spectateur, faire ah, on montre quoi, ah, les bâtards, ah, et d'un coup en fait commencer à pouvoir montrer tout ce panel d'action dans le film. Et puis au montage, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des petits moments, tu vois, de latence ou de temps. Donc là, c'est là où on recommence à réintégrer, refaire un puzzle différent de ce qu'on avait en tête, quoi.
Quand tu fais un film Netflix comme ça, en fait, il y a un peu plus de budget en général que sur un film. En tout cas, pour ce genre de film-là, en France, en général, on a, je sais pas, 3 à 4 millions d'euros grand maximum, en fait, pour faire un film d'action, quoi. Alors que là, je pense qu'on est un peu plus.
Un tout petit peu plus. Ça reste un premier film.
Ouais.
Donc, non, mais c'est pas anodin. Déjà, donner un tel budget, qu'il soit de 3, de 4 ou de 5 pour un premier film.
Ouais.
C'est. Enfin, encore une fois, bon, après, Morgan a son passif de chef opérateur sur Balperdu 1, Balperdu 2, il a réalisé des courts-métrages qui sont formidables. Donc, c'est sûr, ça inspire aussi la confiance à Netflix, mais c'est. Je sais pas si c'est vraiment une question de moyens ou de coûts par rapport à. Je me perds dans mon truc.
Non, mais j'allais dire, il y avait une deuxième partie dans la question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à faire finalement sur un film comme ça ? Physiquement, ou est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est, au contraire, pour toi, l'aspect dramatique ? Mais c'est normalement, en général, c'est pas trop.
C'est vraiment cumulé. Après, c'est sûr que dans cette économie-là, on n'enfile pas des perles, quoi. Ça doit aller vite, ça doit aller fort. Automatiquement, on rentre pas tout ce qu'on a envie de rentrer en action. Mais ça fait partie des problèmes de 99% des films. Et quand tu parlais des réalisateurs qui ont des budgets de 20 ou de 50 millions, qui fait, mec, on a les mêmes problèmes. Et t'as du mal à y croire parce que tu dis, gros, on vient de faire ça. Mais il s'avère que c'est les mêmes soucis pour tout le monde, quoi.
Et les références restent les mêmes pour vous ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur Balles perdues, le fait d'avoir fait Antigang, par exemple, le fait de bouffer du cinéma d'action, en fait, le cinéma d'action a changé depuis le moment où vous l'aviez écrit. Est-ce que les références restent les mêmes ? Parce que tu parlais de cinéma coréen, tu parlais de tout ça ?
Oui, rien n'a changé.
D'accord.
Mais vraiment, les références sont vraiment les mêmes. Mais je pense que, de toute façon, c'est un peu une constante là-dessus. Où tu vois, il y a eu un amour pour le cinéma coréen il y a une dizaine d'années par le public français, et eux rigolaient gentiment en disant, mais les gars, vous savez que c'est Melville qui nous a tout inspiré. En fait, on reprend ce que vous avez on fait une version 2.0, et que nous-mêmes, on n'a même pas conscience de ça. Donc, tout a été fait. Après, c'est la manière dont tu formules ça et dont tu mets ça en image, quoi.
D'accord. Il y a aussi une rencontre là dans ce film. Il y a Cantona quand même.
Ouais.
Et ça, c'est sympa quand même.
Ouais, c'est super.
En plus, c'est un personnage. Comment ça s'est passé en fait ?
Écoute, c'était un bon. On avait quelques acteurs en tête. Pas Eric pour le coup spécialement. Et c'est Netflix qui nous a dit rencontrez Eric. Et à savoir, quand je dis Netflix a dit. Netflix, on est vraiment mais
c'est une suggestion.
Non, mais main dans la main, un respect artistique, vraiment, on nous impose jamais rien et c'est une chance, c'est incroyable qu'on puisse avoir une telle relation avec une telle force, qui est la plateforme Netflix et du coup on le rencontre et là c'est l'évidence. C'est dès le premier rendez-vous, ce qu'il dégage, comment il parle du rôle, l'implication qu'il a et sur le plateau. C'était un bonheur, humainement, professionnellement. Je recommande à tout le monde d'avoir la chance de tourner avec Eric Cantona.
Est-ce que, alors c'est une question, c'est marrant parce que à chaque fois qu'on parle de film Netflix, je la pose en fait, et surtout en France, c'est important. Mais quand t'as des rêves de cinéma en fait, et nous on a la chronologie des médias qui est un peu compliquée, pour pouvoir voir un film sur grand écran, même si bon, il y a des projections de temps en temps en avant-première, ce genre de choses. Est-ce que pour toi en fait, si tu veux, est-ce qu'il y a une logique de manque ? Est-ce qu'on dit on va tourner le film sur la plupart des écrans possibles, ou est-ce que quand même vous essayez de faire grand, quitte à, tu vois, à rendre ça, enfin, à ce que ça soit pas vu sur grand écran. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça serait plus une question à poser à un réalisateur, mais.
Mais même toi, en tant qu'acteur, en fait, qui se projetait quand t'étais gamin, en fait, sur le grand écran, est-ce que ça te manque pas forcément ?
En l'occurrence, je me projetais plus avec des VHS.
Ouais, bon.
Pour le coup, moi, j'étais un bouffeur j'ai ruiné ma mère au vidéoclub, quoi. Mais.
La question, elle se pose pas aux États-Unis, par exemple. Tu vois, ils ont la sortie simultanée. C'est pour ça que la question est intéressante en France, parce que c'est vrai que.
Netflix, je pense pas qu'ils sortent des films au cinéma qui sortent en même temps sur la plateforme.
Deux, trois semaines avant, des fois, en fait. Leur gros film, on va dire.
Je pense qu'ils font des grosses avant-premières, ou peut-être à titre exceptionnel sur un ou deux titres, mais.
Mais la plupart du temps, ouais, c'est sûr.
Oui. Puis, j'ai envie de te dire que c'est le deal, et que du coup, tu peux pas te lancer dans un projet en se disant oui, mais. Et encore une fois, sans Netflix, le perdu voit pas le jour, et Aka non plus. Donc, c'est. Et les distributeurs de cinéma ont tous eu dans les mains le scénario de Balles perdues, le scénario de AK en amont de Netflix, et on fait ah putain, c'est bien, mais
c'est risqué.
Ouais. Est-ce que vous savez faire ça à ce budget-là? Oui, bah oui, mais bon, ça on l'a jamais vu, ouais. Donc on ne sait pas. Est-ce que ça va marcher, le film de genre? Et je fais oui, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Bah oui, il nous faut confiance, donc on va leur montrer qu'on sait le faire. On y arrive à notre échelle et ça marche. Et justement, je pense que ça va ne faire que servir les prochaines années pour redonner cette confiance aux spectateurs et aux distributeurs et producteurs cinéma pour se dire, bah vas-y, on fait une sortie en salle. Et puis il y a Netflix aussi qui est en train d'arriver à la manière de Canal+, à investir dans des films pour des sorties cinéma ça, et pouvoir avoir la première diffusion ensuite sur leur plateforme ou chaîne. Donc c'est tout est en train de s'équilibrer. Voilà, on sort du Covid, il y a tout ce... Enfin, pas cette polémique, mais ce discours que les plateformes veulent les entrées, les trucs, alors qu'il y a juste de la place pour tout le monde. Faites déjà des bons films. Vous inquiétez pas, je pense que ça ramènera aussi du monde. Et idem de notre côté, où nous, on n'a qu'un souci, c'est faire des bons films, vu que ce sera vu. Donc maintenant, c'est d'autant plus... c'est beaucoup... C'est très bizarre de se dire, voilà, quoi qu'il se passe ton film, il va sortir dans 193 pays, ouais. Devant 230 millions d'abonnés. Donc évidemment, tout le monde ne va pas cliquer dessus, mais... T'as déjà un potentiel public.
Mais là, sur la base de Balles perdues, on peut s'imaginer que ça peut aller dans la même direction, quoi.
J'espère, on serait tous très contents. Je sais pas du tout ce que AK va faire.
Il y a un truc qui est assez intéressant pour toi, c'est que malgré tout, en fait, j'aimerais bien savoir comment dans ton esprit, tu gères ta carrière. Si tant est que tu considères qu'il y en ait une, au sens, que tu contrôlerais. Mais tu fais quand même pas mal de second rôle encore.
Ouais.
Mais malgré tout, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans, en fait?
D'être dans des bons films.
Ouais.
Tout simplement. C'est, je me bats et je me bats pour. Je dois me battre pour faire des seconds rôles ou des troisièmes rôles. C'est pour faire des bons films. Et que je le porte ou que je le porte pas, le film, c'est. Mon implication est la même. Donc. C'est moi j'adore j'arrête jamais à dire son de famille John le rôle principal de Punisher la série Bental.
Ah oui, George Bental, ouais.
Le mec va porter Punisher, second rôle de ouf dans Fury, second rôle de ouf dans La Méthode Williams, second rôle dans Le Loup de Wall Street, dans Le Mans 66. J'adore.
Donc ton idée c'est d'être versatile vraiment, en fait, de
pouvoir c'est essayer Oui, non, mais puis j'ai envie de travailler avec plusieurs personnes et je veux surtout pas m'enfermer dans un genre, quoi.
Et mais alors, justement, même dans le cinéma d'action, en fait, là, tu enchaînes. Alors, il y a quand même Anti-Gang 2,
ouais.
Le remake du Salaire de la Peur. C'est des films d'action, c'est tourné. Comment tu les rends, entre guillemets, un tout petit peu... Comment tu te réinventes, toi, là-dedans?
Bah, dans les personnages, c'est-à-dire que je pense que quand on voit Lino, le Balles perdues, et quand on voit Adam de AK, vraiment, on peut vraiment pas se dire que c'est les mêmes personnes. Dans Anti-Gang, je pense qu'on se fera aussi le même constat où c'est quelqu'un, enfin voilà, totalement un autre rôle, beaucoup plus solaire, on est parti beaucoup plus dans la comédie. J'essaie encore de faire autre chose dans le salaire. Mais non, c'est ça, c'est à toi de te renouveler. Moi, j'ai toujours cette petite hantise de. Alors, évidemment, sans aucune comparaison, mais tu sais, quand ils mettent les quatre photos de The Rock, ouais. Et qu'ils disent, c'est quatre films différents, et que le mec vraiment a la même chemise, a la même gueule, a le même truc, et ça, c'est un peu tout ce que j'essaye de. Et on y pense aussi en amont avec Netflix, où on ne veut surtout pas proposer le même type de rôle et le même type de film, parce qu'il y a cette question là qui se pose aussi avec eux, c'est est-ce que ça pose un problème qu'on sorte entre guillemets un film par an avec moi? Est-ce que ça va? Et donc on en parle vraiment pour justement, on a cette cohérence de se renouveler, que ce soit dans le ton, dans le genre et dans les personnages, quoi.
Ouais. Et tu fais, et pour toi, en fait, tu te poses la question exactement comment, c'est-à-dire quand tu dis que c'est des personnages solaires ou des personnages, mais est-ce que tu te dis, tiens, je vais jouer physiquement différemment?
Bien sûr.
Est-ce que je vais me mettre pas forcément hypostiche, parce que ça a l'air d'être un sujet houleux avec toi, mais en fait je sais pas, jouer avec je sais que c'est vrai qu'effectivement physiquement, enfin la coupe de cheveux, ce genre de truc, en fait, dans AK par exemple,
oui complètement, la coupe de cheveux qui te change un peu. Bon, j'ai quand même pris 20 kilos aussi pour le rôle, donc pour avoir un aspect vraiment très différent de Lino et d'avoir moins de choses aussi à faire, parce que dès que le physique est cohérent à ton rôle, bah déjà t'as 50% du travail de fait, où t'as pas à faire semblant d'être dangereux ou semblant d'être balèze. Et il y a aussi la direction de l'acteur et ce qu'on raconte, quoi. il y a le héros, il y a l'anti-héros, il y a le héros déchu, il y a plein de choses à traiter, quoi. Il y a le background aussi qui est très important dans la manière de jouer, des choses que tu vas extérioriser ou non, et tu vas laisser transparaître ou pas, quoi.
Il y a un truc qui est vachement aussi intéressant, on a un petit peu touché du doigt cette idée-là, puisque tu en as un peu parlé et tout. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire ?
Ça s'est transformé, enfin, c'était plutôt une obligation à la base, en me disant, bon mec, de toute façon, on ne propose rien, t'intéresses personne, t'aimes ce genre-là, bah tu sais quoi, vas-y, écris-le, et du coup, c'est ce qu'on a fait avec Morgane. Mais il s'avère qu'il a fallu que j'y arrive par un autre chemin pour réussir quand même à monter ce film-là. Balle perdue, ça a été, je te dis, la bienveillance et la collaboration de Guillaume qui m'a amené sur ce projet-là. Anti-Gang 2, ayant lancé le projet suite au succès de Balle perdue, avec le réalisateur Benjamin Rocher et le scénariste du premier opus Tristan Schulman, on s'est fait une petite tambouille pour lancer une idée et ce qu'on voulait raconter, puis après on a fait hop, allez au boulot. Mais c'est pas une envie spécifique d'écrire. Moi, ce que j'aime, c'est être en symbiose avec le réalisateur, qu'on essaye constamment d'améliorer ce qu'on fait, ce qu'on raconte. Et si on a le temps, on essaie de le faire un peu en amont sur le scénario. Puis si c'est sur le plateau, c'est sur le plateau.
D'accord. Ah, c'est intéressant. La question se posait parce que vraiment, en fait, comme il y a pas mal de choses qui commencent à venir et sur lesquelles ton nom, en fait, est vraiment placé sur le scénario, c'est quelque chose qui est très rare, moi, je trouve, en France. Hein. C'est-à-dire que, en gros, en France, le médium, c'est pas un médium de scénariste, hein, le médium de cinéma. C'est souvent les gens qui réalisent le film, qui écrivent le film. Mais les acteurs, du coup, c'est beaucoup plus rare.
Ce qui est un vrai problème, d'ailleurs. On est en manque de scénaristes en France.
Bien sûr.
On est à la recherche de scénario, on est en attente de choses qui sont. C'est un peu compliqué.
Mais ça te rajoute une casquette, en fait, du coup, intéressante, quoi. Mais comme Stallone, c'est ce qu'il fait aussi. Hein.
Oui, c'est carrément, mais c'est. Rôle, hein. Là, je viens de monter ma boîte de production. C'est sûr que c'est pour être impliqué un maximum dans le film et dans la manière de faire. Mais encore une fois, pour ça, il faut vraiment avoir un réalisateur ouvert, qu'on soit sûr qu'on fasse le même film. Et je ne vais jamais contre un réalisateur. Moi, je demande qu'on m'écoute, pas qu'on me dise oui. Et c'est limite, si tu me dis tout le temps oui, c'est qu'il y a un problème, en fait. Ouais. Moi, je n'attends pas que tu me dises que tu m'écoutes, que tu me rassures. Dire, tiens, est-ce que tu ne trouves pas ça que c'est mieux ? Si, non, pourquoi ? Tu as raison, mec, tu as perdu 10 secondes, on passe à autre chose. Et si tu me fais, je fais OK, stop, on a 2 minutes. Donc là, tu ne peux pas me répondre, donc c'est qu'il y a un problème. Donc comment on peut.
Est-ce que ce n'est pas en train d'arriver de plus en plus ?
Oui.
Du fait que, en fait, tu sois de plus en plus un premier rôle et, en fait, de plus en plus une star reconnue, quoi.
Oui, mais justement, c'est là le truc un peu où faut faire attention de pas. Empiéter. Pas devenir le connard de service, en fait. De toujours. C'est pour ça que je te dis qu'en symbiose, c'est je pèse mes mots, quoi. C'est plus les réalisateurs qui commencent à connaître ma manière de fonctionner, qui vont être en demande de ça. Et à l'inverse, tu vois, il y a Guillaume Pierret qui dit « Alban, pour un réalisateur, c'est ou une bénédiction ou une malédiction. » Parce que je suis tellement passionné. J'aime tellement ce que je fais. Je tous les matins, vraiment, mais je me lève en me disant « mais quelle chance tu as de pu rêver ta vie, mais de vivre tes rêves. Que oui, je peux prendre un peu de place. » Mais du coup, c'est... si on est cohérent avec le réalisateur, c'est que du bonheur, en fait. Parce qu'on ne fait que, monter le niveau un maximum de surtout, quoi.
D'accord. Bon, merci, Alban.
Oh, il y a 40 minutes, là ?
Il y a 40 minutes presque. Enfin, 39 minutes. Hein.
J'hallucine.
En fait, on dit tout. Hein. Il y a un décompte derrière. Donc, il faut que je ferme.
D'accord.
Voilà. Merci, Alban. Merci à Netflix, en fait, pour l'opportunité. Aka, c'est sur Netflix le 28 avril.
Tout à fait.
Voilà. Donc, partout dans le monde.
Ouais.
En France surtout, quoi. Voilà, pour commencer, quoi. Et puis, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis, à bientôt avec un prochain film.
Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.